Radio 1, premier sur l'info, le journal.
Avec MCM.
Jeudi 12 mars, le journal de la mi-journée présenté par Antoine Samoyau. Bonjour.
Bonjour Moreto, bonjour à tous. La ministre des Outre-mer, Georges Pollangevin, est repartie hier soir pour Paris après 3 jours de visite officielle en Polynésie. Avant cela, la ministre a prononcé un dernier discours hier soir pour annoncer notamment la création d'un groupe de travail sur la question de la dette du nucléaire. Tolérance zéro sur les violences familiales, c'est le message affiché par la gendarmerie, et le procureur de la République lors d'une conférence de presse hier après-midi. Les autorités veulent davantage de synergie pour lutter efficacement contre le fléau de la violence au sein des familles en Polynésie. Enfin, le premier congrès des ressources humaines se poursuit aujourd'hui au Méridien de Tahiti. J'ai le plaisir de recevoir ce midi Laurence Vanet. Elle vous le dira, elle n'est plus directrice des ressources humaines, mais directrice du bonheur. On vous expliquera ça tout de suite.
Et on démarre donc avec le bilan de cette visite de la ministre des Outre-mer en Polynésie.
À la fin de sa mission hier soir, la ministre des Outre-mer a prononcé un discours à la résidence du haut-commissaire où près de 500 convives étaient présents. Elle est revenue sur la signature du contrat de projet avec le président Édouard Fritch en début de semaine. Elle affirme aussi que sa mission dans les îles lui a permis de mieux appréhender et de mieux comprendre les problématiques auxquelles doivent faire face les Tavanas et notamment ceux des archipels éloignés. La ministre des Outre-mer a souligné aussi qu'à travers le retour au financement du régime social de solidarité, le fameux RST, l'État était véritablement de retour. La ministre a également évoqué la question des essais nucléaires. Elle a tenu à remercier la Polynésie, je cite, sans laquelle la France n'occuperait pas la place qu'elle occupe actuellement dans le monde. Elle a annoncé la création d'un groupe de travail pour avancer sur la question largement débattue ces derniers jours de la dette du nucléaire. Pourtant, les associations sont sceptiques. Roland Eldam, le président de Moro et Tatou, parle d'une mascarade. Écoutez-le, joint ce matin par Vaite Urari Pambrin.
Les Polynésiens, les victimes, perdent patience avec toute cette mascarade que l'État a fait par rapport aux victimes. C'est très déplacé parce que quand ils ont fait les essais ici, ils se sont empressés de faire les essais, ils se sont tenus compte des conséquences qu'on pouvait prévoir. Et aujourd'hui, avec les problèmes de santé, tout ça, on nous pond une loi d'abord qui n'indemnise pas. Et puis, on n'arrête pas de nous dire qu'on va améliorer la situation, mais en fin de compte, on est en train de retarder. Et puis, moi, je trouve que c'est aberrant, c'est scandaleux ce qui se passe. Pour moi, je l'ai répété à plusieurs reprises, pour les victimes, c'est un refus. C'est simplement un refus d'indemniser les victimes. Je dois simplement rappeler à Madame la ministre, quelqu'un avait déjà dit ça, hein. Je parle du président Hollande pendant sa campagne. On va faciliter et puis tout le monde sera indemnisé. Il y a déjà plusieurs années et on attend toujours. Je dis simplement que l'État français, notamment le Parti Socialiste, le gouvernement, nous a menti et continue de nous mentir.
La ministre des Outre-mer, Georges Pollangevin, qui est également revenue sur le toilettage du statut de la loi organique proposée par le Tahuera, elle affirme que l'État n'est pas fermé à cette amélioration. Par contre, elle réfute l'idée du Parti Orange d'évoluer vers le statut de pays associé. Pour la ministre, cette évolution ressemble davantage à un basculement vers l'indépendance. Une vision que ne partage pas Marcel Touyani, le président de l'Assemblée, qui affirmait ce matin ne pas comprendre cette interprétation de la ministre. On l'écoute à nouveau au micro de Vaite Urari Pambrin.
J'aimerais bien qu'elle me présente au sein de la résolution que j'ai personnellement présentée à l'Assemblée de l'Employé française, les éléments qui pourraient nous conduire à penser que nous allons plus nous rapprocher de l'indépendance que d'une autonomie renforcée. Je ne partage pas la même lecture.
Et justement, elle fait état des élections de 2013 où les électeurs polynésiens ne souhaitent pas l'indépendance.
Bien sûr, et elle a tout à fait raison de remettre en avant le choix des Polynésiens s'agissant du renouvellement des représentants à l'Assemblée de la République française au mois de mai 2013. Et d'ailleurs, le Tahura Huratira est un parti autonomiste, a toujours défendu l'autonomie au sein de la République. Le Tahura Huratira s'est opposé d'ailleurs à l'UPLD parce qu'il s'agissait d'inscrire la Polynésie française sur la liste des pays à décoloniser. C'est bien le partenaire politique du Parti socialiste qui a œuvrer dans ce sens. Donc, ne venons pas aujourd'hui accuser, encore une fois, le Tahura Huratira de vouloir se rapprocher de l'indépendance, alors que nous nous sommes toujours battus pour que l'autonomie soit au sein de la Polynésie française et que la Polynésie française reste véritablement au sein de la République. Ah, sur ce point-là, le Tahura Huratira ne changera jamais.
Le procureur, les gendarmes et plusieurs associations se sont réunis hier pour évoquer la question des violences intrafamiliales en Polynésie.
L'actualité a été marquée récemment par plusieurs drames causés par des violences conjugales. On se souvient notamment des deux tragiques incendies à Mahina la semaine dernière. Le procureur José Torel, les gendarmes ainsi qu'une demi-douzaine d'associations de lutte contre les violences intrafamiliales de Tahiti Mo'orea se sont réunis hier. L'objectif était de tenter d'apporter une synergie des moyens pour lutter efficacement contre ces violences conjugales. José Torel est venu rappeler les différentes réponses pénales apportées dans le cadre des violences dans les familles. Il rappelle que la situation constitue un axe prioritaire de la garde des Sceaux. On l'écoute au micro de Samia Stambouli.
Je suis intervenu pour rappeler à la fois les grands axes de la politique pénale du parquet en ce domaine. La garde des Sceaux, depuis maintenant 2 ans, nous a fixé comme priorité nationale la lutte contre les violences sur les femmes et notamment au sein du couple. C'est ce que nous avons décliné en Polynésie française. Première directive, c'est bien entendu la tolérance zéro en ce domaine. Et j'ai rappelé aux enquêteurs la nécessité de faire à ces victimes de violences un accueil qui soit plus large possible.
Une nouvelle réunion de ce type devrait avoir lieu tous les 3 mois pour faire le point et identifier éventuellement de nouvelles problématiques liées aux violences au sein des couples et des familles du Fénois. Retrouvez plus de précisions sur le sujet et notamment le témoignage des associations présentes hier sur notre site radio1.pf.
Un coup d'œil maintenant chez nos voisins du Pacifique. On fait le point sur l'évolution du cyclone Pam au Vanuatu.
Le cyclone Pam qui arrive en ce moment même aux abords des côtes vanuataises, passé hier soir en catégorie 4 sur une échelle de 5, il devrait encore augmenter en intensité dans les prochaines heures en arrivant aux abords de la capitale, Port Vila. Selon les services météorologiques de Fidji, la pression au centre du cyclone est proche des 100 hectopascales et les vents y soufflent actuellement à 200 km/h. La dépression tropicale se déplace en direction du sud-ouest à 9 km/h et va longer tout l'archipel du Vanuatu dans les prochaines 24 heures. L'Office national de gestion des catastrophes a activé les centres d'opération d'urgence situés dans les différentes îles de l'archipel. Ils se tiennent prêts donc à accueillir les sinistrés. Les habitants de Fidji et des îles Loyauté de Nouvelle-Calédonie vont également subir les conséquences de PAM dans les prochaines heures, mais plus modérément, avec des vents violents, des pluies intenses et une houle cyclonique de plusieurs mètres.
Radio 1, le journal midi 8, une petite pause et on revient pour parler avec notre invité, bien sûr, et la page sport. Retour au journal, Antoine, et on reprend avec notre invité du jour pour parler à nouveau du congrès des ressources humaines.
Le premier congrès des ressources humaines organisé en Polynésie qui a débuté hier au méridien de Tahiti. Vous l'avez peut-être entendu, nous avons reçu hier midi Geneviève Cloutier qui était venue nous parler de rémunération et de performance au travail. Ce midi, j'ai le plaisir de recevoir Laurence Vanet, directrice générale du Bonheur au cabinet Happy Performance en Belgique. Laurence, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes donc directrice du Bonheur. Expliquez-nous un peu ce que ça signifie. Comment vous en êtes arrivée là ?
J'en suis arrivée là parce que j'ai été toute ma carrière directrice des ressources humaines et je ne sais pas comment vous viviez de la chose, mais moi j'ai beaucoup de mal à me sentir comme une ressource et donc j'ai du mal aussi à gérer des ressources. Je trouve qu'on a beaucoup mieux à apporter en tant qu'être humain et donc fondamentalement, même si toutes les organisations veulent être performantes et elles ont tout à fait le droit de l'être, il y a très peu de personnes qui se lèvent le matin en se disant tiens, moi aujourd'hui je vais être super performant par rapport aux objectifs qu'on m'a fixés. On se lève plutôt le matin en se disant tiens, moi je vais être heureux et donc l'idée c'était de ramener le bonheur au sein des organisations.
Alors votre but c'est le bonheur mais pas seulement des employés mais aussi des employeurs et des actionnaires, vous me le disiez avant l'émission.
Oui tout à fait, en fait on a constaté que des employés heureux qui se sentent bien dans ce qu'ils font, qui aiment ce qu'ils font, rendent en fait les clients avec lesquels ils interagissent heureux également et du coup les clients parlent du service reçu ou du produit qu'ils ont consommé avec beaucoup d'enthousiasme autour dans leur cercle d'amis, dans les familles, ce qui fait que les clients vont attirer d'autres clients, ça veut dire aussi plus de chiffres d'affaires et donc là ce sont les actionnaires qui sont heureux, donc on est vraiment dans un cercle vertueux.
Comment on fait concrètement pour valoriser le bonheur dans l'entreprise ?
L'idée en fait, on part du principe que le bonheur c'est quelque chose d'extrêmement subjectif, ce qui va faire votre bonheur ne fera peut-être pas le mien, et donc par conséquent on va donner la possibilité à chacun d'aller piocher dans l'organisation ce qui va pouvoir contribuer ce qui va pouvoir contribuer à son bonheur personnel. Et pour éviter que ça ne devienne le chaos, on va demander à toutes les personnes qui font ces choix, finalement, d'accepter les responsabilités de leurs choix. Donc on va partir d'une formule qui est, on donne de la liberté à chacun, mais on va demander la prise de responsabilité. Et on a constaté, aussi bien dans les entreprises publiques que privées, donc dans des ministères, mais aussi dans des sociétés cotées en bourse, que fondamentalement, c'était créateur de bonheur pour les personnes, parce qu'on était responsable et on se sentait vraiment heureux, mais aussi de performance performance pour les organisations.
Vous me parlez aussi beaucoup de la notion de liberté des employés et des acteurs donc de l'entreprise.
Et liberté, la liberté peut se traduire de différentes façons. On peut avoir, grâce à la technologie aujourd'hui, de la liberté de lieu. Donc il n'est plus nécessaire de venir au bureau si on a un job de bureau. Par exemple, pour être derrière son ordinateur pour lire ses mails, on peut très bien commencer à faire ça de chez soi. Donc c'est toutes les notions de télétravail. Liberté de temps, on a la possibilité finalement de pouvoir commencer à travailler tôt, puis faire un break dans sa journée, s'occuper autrement, reprendre plus tard dans l'après-midi ou dans la soirée. Ce qui est important, c'est qu'on atteigne les résultats et qu'on soit aussi soucieux que son équipe, donc on n'est jamais tout seul, mais que l'équipe atteigne ses résultats. On peut avoir une liberté de rôle. Bien sûr, on est tous payés pour faire quelque chose à la fin du mois, mais l'idée c'est de pouvoir aussi décider soi-même de s'impliquer sur d'autres objectifs de l'organisation et de contribuer à un mieux collectif. Et puis des libertés d'outils aussi. Si vous n'aimez pas l'ordinateur ou le téléphone que votre employeur vous met à votre disposition, ben, prenez votre propre téléphone. Mais par contre, on respecte les règles qui sont en vigueur en matière de sécurité.
Cette notion de bonheur au travail, c'est quelque chose de développé dans les entreprises, dans le monde, en métropole, en Belgique, en Polynésie?
Ça commence à se développer, mais c'est un vrai tsunami, c'est une vraie vague de fond en fait, parce que tout simplement, on se rend compte que pendant des années, on a mis la pression sur la performance, on a revu les processus, on a déshumanisé les organisations et les gens en ont marre. C'est aussi simple que ça. On n'a plus envie de travailler pour des employeurs qui nous exploitent, entre guillemets. Et les employeurs sont arrivés au bout de la performance qu'ils pouvaient atteindre. Tout simplement, ramener le bonheur au travail, ça permet de rendre du sens, ça permet de rendre du plaisir, ça permet en fait de ne pas se rendre compte qu'on travaille. Tout simplement, on arrive à délivrer des choses, mais dans la joie et la bonne humeur.
Et ça rejoint un peu ce qu'on disait sur la contre-performance, donc quand on respecte pas le bonheur des employés. Laurence Vanet, merci beaucoup de nous avoir ouvert un peu plus l'esprit ce midi sur le bonheur au travail.
C'est un plaisir.
Je vous rappelle que le premier congrès des ressources humaines organisé en Polynésie a démarré hier et se poursuit donc jusqu'à demain. Chaque midi, pendant 3 jours, sur Radio 1, nous découvrons une approche innovante de la gestion humaine au travail grâce aux intervenants de ce congrès. Et demain, nous parlerons du stress au travail.
Non, là, le bonheur au travail, on n'est pas stressé. Allez, on passe au sport.
Premier sur le sport. Avec sportaiti.com.
C'est l'heure effectivement de notre nouveau rendez-vous sportif quotidien. Tamato Atefao fait le point tout d'abord sur les performances de nos bodybuilders à l'international.
Bonjour à tous, les athlètes de l'IFBB Tahiti sont actuellement en Australie pour participer à la prestigieuse compétition l'Arnold Classic Australia qui aura lieu du 13 au 15 mars à Melbourne. La délégation est composée de 5 athlètes avec Myrna Bono et Teura Temari Kimitete en bikini fitness, Titawa Song Sonerman en body fitness, Michael Ching en men's physique et Steve Chung Pyu en classic bodybuilding.
Et on continue cette rubrique avec du badminton et les résultats de football pour la Coupe de Tahiti Nui.
En effet, ce sont les championnats de Polynésie qui se sont tenus week-end dernier dans le gymnase de l'université. Chez les jeunes, Kevens Siou s'impose facilement au poussin. Dans la finale, Benjamin Louis Beaubois s'octroie la victoire. Et chez les minimes, c'est Kerik Siou qui remporte le sacre. En élite femme, Coralie Boutin confirme son statut et décroche le titre après un tournoi maîtrisé. En élite homme, c'est Léo Cucuel qui gagne sa finale face à Rohiri Guggenheim. Et on conclut cette rubrique sur du football avec les résultats des demi-finales de la Coupe de Tahiti Nui. Tefana Bay Excelsior 4-0 et la Espire s'impose face à Central au score de 3-0. La finale opposera donc la Tefana la Espire le 17 mars. Voilà, c'est terminé et on se retrouve demain avec l'agenda du week-end et le reste de l'actualité sportive que vous pouvez toujours découvrir sur www.sportaiti.com.
Ça va nous faire une belle affiche en finale, ça, hein, Moreto, qui s'intéresse au sport depuis hier.
Oui, surtout au football.
Toujours.